France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann.
Troisième épisode de notre série sur les philosophes qui n'ont rien écrit, nous évoquons aujourd'hui Épictète, pour lequel enseigner était la seule œuvre. Épictète est un philosophe grec, né vers l'an 50 de notre ère et mort vers 125 ou 130. Il était un adepte de la philosophie stoïcienne qui, fondée en Grèce à la fin du 4e siècle et dans la première moitié du 3e avant Jésus-Christ, avait donc engendré déjà pas mal d'œuvres au moment où Épictète l'a connu et enseigné. Épictète était fondamentalement un enseignant. C'était là pour lui l'essentiel du travail qu'avait à faire un philosophe stoïcien et aider les autres à devenir plus sages, nul besoin apparemment pour lui de laisser une trace écrite. Était-ce parce que le corpus stoïcien était déjà largement constitué à son époque et parce que la véritable œuvre pour Épictète était l'ensemble des progrès réalisés par ses élèves ? En tout cas, c'est un de ses élèves, justement, Arien de Nicomédie, qui a couché sur le papier ses enseignements et auquel nous devons donc les entretiens ainsi que le manuel d'Épictète. S'agit-il d'un hommage ultime au professeur Épictète que lui-même n'aurait sans doute pas renié ? Et est-ce important, finalement, pour nous aujourd'hui d'avoir cette trace écrite ? Bonjour Frédéric Ildefonse.
Bonjour Géraldine.
Vous êtes directrice de recherche au CNRS, grande spécialiste française du stoïcisme. Votre dernier livre, paru chez Vrin en 2022, s'intitule « Le multiple dans l'âme, sur l'intériorité comme problème ». Et bonjour Alain Petit.
Bonjour Géraldine.
Vous êtes spécialiste de philosophie antique, membre du laboratoire de recherche philosophie et rationalité à l'université de Clermont-Ferrand. Vous vous apprêtez à publier aux éditions Honoré Champion dans quelques semaines, je crois,
oui,
un nouvel ouvrage intitulé « Le monde et le divin ». Bienvenue à tous les deux pour nous parler ce matin d'Épictète, de l'enseignant Épictète, tout occupé à son travail de transmission orale. En introduction à notre discussion, voici un propos du philosophe du XXe siècle, Vladimir Yankelevitch, en 1979, c'était au micro de Jacques Chancel dans Radioscopie.
L'essentiel de ce que j'ai fait, c'est oral. Et vous savez, ça vous ennuie pas.
Il y a quand même beaucoup de livres.
Oui, mais malgré tout, je suis un philosophe oral.
Oui.
Voyez-vous, ma forme d'expression est parler, essentiellement. Parce que je suis un professeur, je ne suis pas un écrivain, c'est très différent. Je ne suis pas l'homme d'un stylo. Évidemment, j'ai écrit des livres, mais je ne suis pas un écrivain. Ma profession n'est pas l'écriture, comme on dit aujourd'hui, ce vilain mot qui s'appliquait de mon temps aux écoliers, et maintenant ça s'applique aux écrivains. Eh bien, écrire n'est pas ma spécialité, c'est parler, c'est la communication orale, comme maintenant avec vous, voyez-vous.
Alain Petit, vous l'avez connu, Yankelevitch ?
Oui, j'ai croisé Yankelevitch, j'ai entendu sa voix. On la reconnaît très bien.
Ah oui,
oui.
C'est un bonheur d'entendre ça, ça nous met en forme pour toute la matinée.
Oui, oui, oui.
Et c'est vrai alors que lorsqu'on assistait à ses cours ou qu'on le fréquentait, on sentait, en effet, que Yankelevitch était d'abord un enseignant.
Oui, mais alors un enseignant très particulier, parce que, d'une certaine manière, on avait le sentiment qu'il n'avait pas du tout l'intention de transmettre des contenus déterminés. Que ce enseigner, pour lui, ça n'était pas cela. C'était plutôt l'homme de la transition. Son terme préféré, c'était « parcours ». Qu'il se retrouvait d'ailleurs aussi dans ses livres sur la musique.
Et vous trouvez que c'est contradictoire, professeur et écrivain ?
Non, je ne le crois pas. Mais dans le ton très ironique qu'il avait toujours d'ailleurs, Vladimir Yankelevitch, voulait surtout décliner la qualité d'écrivain au sens où il se serait surtout soucié de peigner son écriture, comme on disait il y a très longtemps. Alors que pour lui, il s'agissait finalement de bâtir une espèce d'antisystème.
Voilà, et la tendance de l'écrivain philosophe serait peut-être d'être systématique, et c'est pour cela, pensez-vous, qu'il met à distance la figure de l'écrivain ?
C'est aussi pour essayer de... Alors là, je crois que c'est aussi pour essayer de rendre sa propre voix dans la manière dont il écrivait. Quand il dit qu'il est oral, ça, je crois qu'il faut vraiment le prendre au sérieux.
Et donc on peut écrire en essayant de garder quelque chose.
Oui, c'est absolument. Lui essayait, ne serait-ce que par sa rhétorique propre.
Frédéric Ildefonse, vous êtes chercheuse, comme Alain Petit. Vous enseignez aussi un peu ?
Un peu.
Oui. Peut-être pas autant que les...
Ah non, moins.
Moins, mais vous avez le sentiment, vous aussi, que professeur et écrivain chercheur-écrivain, ce sont des choses différentes.
Oui, je crois qu'on ne dit pas la même chose à l'oral que ce qu'on écrit quand on écrit. Quand je faisais des cours un peu plus au début, je pensais que peut-être un cours que je ferais sur un sujet m'amènerait à faire un livre sur un sujet. Et j'ai l'impression que c'est pas la même chose qui se joue dans les deux.
Donc, si on est très attaché à l'oralité de l'enseignement, on a raison, comme Yankelevitch, et peut-être comme Épictète, nous allons y venir, c'est un préambule, on a raison de choisir. C'est-à-dire, on est l'un ou l'autre, on ne peut pas être les deux. Prof ou écrivain.
J'ai pas l'impression qu'en effet ça se superpose, en fait.
Et vous êtes d'accord, à titre personnel, Alain Petit, sur ce clivage?
Moi, je crois qu'il faudrait arriver à trouver une forme, un genre d'écrivain qui parviendrait à capter l'oralité sur le mode de la fiction. Une sorte de fiction de l'oralité qui pourrait bien, en effet, avoir été le propos d'Arien.
Et qui est peut-être une des formes d'écriture les plus difficiles, en vérité.
Sans aucun doute.
Alors, venons à Épictète. Donc, d'abord, il paraît que c'était un esclave. Et qu'il a été affranchi seulement après la mort de Néron, c'est ça, en 68 après Jésus-Christ. Tout cela est avéré, Frédéric Ildefonse.
En tout cas, il semble bien qu'il ait été esclave, de quelqu'un qui était lui-même affranchi, ce qui est un petit peu particulier, que cet affranchi, quoi qu'ayant été lui-même esclave, le maltraitait.
Ah bon ? Ça, on le sait.
Oui. Enfin, il y a des témoignages en ce sens. Qui lui permettait pourtant d'assister à des cours.
Des cours d'un certain Musonius Rufus.
C'est ça.
Et qui était lui-même stoïcien. On était à Rome, là.
Oui.
Et en fait, il connaissait cette philosophie qui venait de Grèce.
Oui, et en tout cas, il semble qu'à l'issue de ses cours, Épictète soit devenu lui-même maître et qu'il ait été alors affranchi par Épaphrodite.
Par ce Épaphrodite qui a été donc l'affranchi qu'il avait, il faut bien employer le mot, acheté comme esclave, et qu'il avait donc fait venir de Grèce, car il est grec en Grèce, Épictète à Hierapolis, il paraît que c'est une station thermale, pas très loin de la Turquie.
C'est pas...
Bon, enfin, moi, je découvre plein de choses quand je prépare ces émissions. Et donc, il a été transporté à Rome par cet affranchi, puis lui-même affranchi. Son mode de vie, une fois qu'il a assisté à ses cours, qu'il s'est converti, si j'ose dire, c'est un mot un peu religieux, mais bon, à la philosophie stoïcienne, Alain Petit, Épictète avait une vie extrêmement sobre, il vivait dans une masure avec juste une paillasse, un bureau, pas de livres.
C'est vrai, on s'est attesté d'ailleurs par certains propos qu'il tient. Il semble qu'il ait prôner et pratiquer une forme d'abstinence à l'égard de la richesse qui lui donne un caractère cynique, en fait. C'est un stoïcien qui garde la veine cynique du début du stoïcisme. Et en même temps, c'est un maître, et c'est un maître qui va devenir célèbre.
Et suffisamment pour qu'il se fasse chasser de Rome en 89. Il paraît que là, l'empereur Domitien a expulsé pas mal de philosophes et Épictète est rentré en Grèce. Alors cette fois-ci, il s'est installé à Nicopolis d'Épire, ville de passage de Grecs et de Romains fortunés, bien nés. Il était déjà connu un peu à Rome et puis ensuite sa grande réputation va se faire à Nicopolis, Alain Petit.
Oui, parce que si l'on se fonde sur l'exemple, disons, biographique d'Arien, comme échantillon de son public, de ses auditeurs, c'est un maître pour de grands personnages en particulier, comme Arien, qui sont destinés à la carrière des honneurs, et qui vont devenir des personnages importants de l'Empire. Donc il y a une sorte de retournement de fortune dans la carrière d'Épictète, qui devient le maître des grands.
Voilà, ce qui interroge, parce qu'on peut se demander si le stoïcisme préparait fondamentalement à être un puissant. Le fait que Marc Aurèle ait été explicitement stoïcien, l'empereur, apparemment l'empereur Adrien avant était également, il connaissait le stoïcisme, il y avait des profs, si j'ose dire, autour de lui. Ça pose un peu cette question, est-ce que le stoïcisme est une philosophie pour les puissants? Alors c'est contradictoire avec le fait qu'Épictète était très pauvre et modeste.
Le stoïcisme n'est pas seulement une philosophie pour les puissants, mais pour les puissants, c'est une forme de... Je veux dire, ça donne une cuirasse. Ça permet à ceux-là, parmi tous les auditeurs possibles des stoïciens, de résister au pouvoir.
Voilà.
À leur propre pouvoir, si je veux dire.
Et peut-être que c'est cela, Frédéric Ildefonse, qu'Épictète, modeste, ancien esclave, pas du tout puissant, ni même franchement, je crois, auprès des empereurs, contrairement à d'autres, c'est peut-être cela qu'il livre. Le stoïcisme, c'est aussi une philosophie du quotidien pour des gens qui ne sont pas puissants.
Bien sûr, mais par ailleurs, ça fait le plus grand bien aux puissants de suivre des cours des stoïciens, et d'ailleurs, ça serait encouragé.
Alors, vous avez évoqué Arien. Alors, Arien de Nicomédie, il est grec lui aussi. Il est né en 85, donc il a à peu près 35 ans de moins que Épictète. Et alors, lui, franchement, il a un rapport non seulement à Rome, mais à la puissance politique et administrative. Il a eu de hautes fonctions sous Adrien. Et puis, en 138, à la mort d'Adrien, il va se retirer à Athènes pour écrire. Il est aussi très séduit par Alexandre le Grand. Il écrira une Anabase d'Alexandre. Il écrit pas mal, ce Arien. Et c'est un personnage, un peu comme Épictète biographiquement, entre Rome et la Grèce, cette période-là de transition, où il y a pas mal de gens qui sont entre les deux, Frédéric Ildefonse.
Oui, oui. Mais ce qui est frappant, c'est que il a écrit après s'être retiré des affaires, comme vous l'avez dit. Et, comment dire, dans la fameuse lettre qui est introduite dans les éditions actuelles aux entretiens, ça n'est pas du tout de puissance qu'il fait montre.
Voilà, pas du tout.
Pas du tout.
Et donc Épictète semblait donner une autre tonalité. On va parler de ce Arien quand même, parce que c'était un élève d'Épictète. Pourquoi a-t-il voulu écrire, mettre sur le papier des choses que lui avait enseignées Épictète? Je vous propose d'écouter tout de suite cette lettre fameuse à Arien, à Lucius. Je crois que ce Lucius n'est pas très connu, vous me le confirmez. On ne sait pas bien à qui il a écrit. Mais c'est une introduction aux entretiens d'Épictète qui sont donc retranscrits, peut-être même réélaboré, vous me direz, par cet Arien, Arien de Nicomédie. On écoute.
Je n'ai pas donné à ces propos d'Épictète la forme littéraire qu'on donnerait aux ouvrages de ce genre. Et je ne les ai pas non plus livrés au public en mon nom, puisque je n'affirme même pas que j'ai fait œuvre littéraire. Mais tout ce que j'ai entendu de la bouche d'Épictète, j'ai essayé de le transcrire dans ses propres termes autant que possible, afin de me conserver pour l'avenir des souvenirs de sa pensée et de son franc-parler. Ses propos sont donc, comme il est naturel, du genre de ceux qu'on peut tenir spontanément à autrui, et ne ressemblent pas aux compositions littéraires destinées à de futurs lecteurs. Cela étant, je ne sais comment, contre mon gré et à mon insu, ils sont tombés entre les mains du public. Pour ce qui me concerne, cela n'a pas grande importance que je me montre incapable de faire œuvre littéraire. Et pour Épictète, cela n'en a aucune que l'on méprise ses propos, puisque aussi bien, quand il parlait, son seul désir de toute évidence était d'entraîner l'esprit de ses auditeurs vers ce qu'il y a de meilleur. Si donc les propos qui suivent produisent précisément cet effet, on peut dire, je pense, qu'ils ont les qualités que doivent avoir les propos des philosophes. Dans le cas contraire, que ceux qui les ont entre les mains sachent du moins que lorsqu'ils parlaient en personne, l'auditeur ne pouvait s'empêcher d'éprouver exactement ce qu'Épictète voulait lui faire éprouver. Et si les présents propos ne produisent pas par eux-mêmes cet effet, peut-être en suis-je responsable. Peut-être aussi est-il nécessaire qu'il en soit ainsi. Porte-toi bien.
« Frédéric Ildefonse, c'est étrange cette lettre. Suggère-t-elle qu'Épictète n'aurait jamais voulu une retranscription de ce genre? Suggère-t-elle que Arien de Nicomédie, son élève, était peiné par le fait que la philosophie d'Épictète stoïcienne s'était propagée, mais peut-être mal comprise? Est-ce que c'est cela qu'il a voulu rectifier? Qu'est-ce que vous comprenez dans la démarche d'un élève d'Épictète qui écrit ses cours, ses idées, alors même que, semble-t-il, Épictète ne voulait pas écrire?
Alors, vous avez raison, Géraldine, ce texte est étrange. Et en le regardant précisément, je l'ai trouvé vraiment étrange. C'est-à-dire que Arien commence à dire ce qu'il n'a pas fait. Mmh. C'est-à-dire, bon là, la traduction dit « je n'ai pas donné à ces propos d'Épictète la forme littéraire », etc. En fait, en grec, c'est plus simple, et ça a été parfois traduit « je n'ai pas composé ça ». Je ne l'ai pas composé.
Ouais, c'est pas moi, non. C'est de l'Épictète, oui. C'est pas du Arien, oui. De Nicomédie.
Ensuite, il dit j'ai essayé de faire une transcription littérale. Mmh. C'est ça qu'il dit dans ses propres termes. C'est-à-dire, je l'ai entendu de la bouche d'Épictète, je le retranscris tel quel. Et il explique, je l'ai fait pour me conserver pour l'avenir des souvenirs de sa pensée, en grec c'est hypomnémata, et de son franc-parler. Et je pense qu'il va falloir revenir là-dessus, parce que l'idée du franc-parler, peut-être que ça a à voir avec la non-écriture, justement, de la part d'Épictète.
C'est quoi, c'est parisien, le mot?
Oui.
C'est ça, oui. Le fameux mot.
Oui, le fameux.
On en reparlera demain à propos de Diogène de Sinope,
oui.
Qui a un peu écrit quand même, mais l'idée du franc-parler, voilà, c'est... Alors, peut-être vous pouvez le dire tout de suite, pourquoi c'est important?
Ben, c'est important parce que, comment dire... La parésia, c'est le franc-parler, étymologiquement, ça veut dire tout dire. Tout dire, il y a deux acceptions, et Carlos Lévy, qui était là il y a quelques jours, l'a précisé en le pointant dans un texte de Foucault, ça peut vouloir dire tout dire, il y a un texte de la République qui va dans ce sens, et on peut citer un texte de la République de Platon, et il y a un texte des lois qui associe la parésia au vin, à la possibilité, oui, de tout dire. Et puis, il y a un autre sens de la parésia qui a à voir plutôt positif, qui a à voir plutôt avec ce qui se joue là,
oui,
dans l'enseignement d'Épictète, et probablement, à mon sens, avec le choix de non écrire, le choix,
oui,
de ne pas écrire, et ça a à voir avec le franc-parler, le fait de tout dire sans dissimulation, sans ornement rhétorique, et ça a à voir avec ce que Foucault appelait le courage de la vérité, c'est-à-dire l'entrée dans une parole risquée.
Maîtriser quand même la parole, c'est un stoïcien qui est, oui, peut-être normalement la question de la maîtrise est déjà...
Oui, c'est maîtriser.
Maîtriser, il n'y a pas ce relâchement de l'oral. Enfin, si vous avez fait cours, vous le savez très bien. Il y a un moment, parfois, on ne sait pas pourquoi, mais... Il y a telle ou telle phrase qui nous sort comme ça. Et il y a une dimension dans le franc-parler et dans l'enseignement, d'après vous, et chez Épictète, de non-contrôle.
Ah non, moi je ne pense pas. Je pense non, mais je pense que c'est très maîtrisé. Simplement, on ne s'interdit rien qui ne soit direct.
D'accord.
Il n'y a pas de fausse ornementation, il n'y a pas de honte à dire ceci ou cela. Il y a quelque chose de très vif, de très âpre, quelque chose qui fait choc, réellement.
Et donc, si je vous suis bien, et je vais demander là tout de suite à Alain Petit sa réaction, Épictète avait toutes ses qualités d'enseignant, qui sont un peu contradictoires, et même un peu beaucoup avec l'écriture, et Arien se justifie en disant « je ne vais pas trahir le franc-parler d'Épictète, mais je veux quand même coucher certaines choses sur le papier ». Il y a une dimension de justification.
Oui, elle est nécessaire. Alors, il peut y avoir plusieurs raisons à ça. Il se peut que, parmi les différents auditeurs d'Épictète, il y a eu une sorte de consensus sur le fait de ne pas divulguer les entretiens qui avaient été effectivement tenus. Donc, de la part d'Arien, il peut y avoir une dimension transgressive.
Mm-hmm.
La lettre ressemble furieusement, elle contient un certain nombre de subterfuges. C'est une apologie pour soi-même, où on décline la qualité d'auteur. On la décline également pour Épictète. Épictète a certainement, pour sa part, voulu être étranger à l'écriture.
Oui.
Mais alors, la question qui se pose est de savoir, en tant que stoïcien, pourquoi l'a-t-il fait ?
Ben oui,
on n'a pas beaucoup d'autres exemples d'un stoïcien qui n'écrirait pas, qui refuserait de le faire. Alors, il se peut qu'il ait pensé, parmi Épictète ait pensé, comme vous l'avez d'ailleurs évoqué parmi les raisons possibles tout à l'heure, que d'autres avaient écrit,
oui,
et que cela était suffisant s'il s'agissait de faire des traités. Et en fait, il y a un classique qui est Chrysippe, auquel il renvoie toujours à cet égard. Donc lui ne va pas faire du Chrysippe. Il n'a rien à ajouter en ce qui concerne les dogmes. Il a autre chose à faire.
Frédéric Ildefonse, vous êtes d'accord que c'est l'idée d'un corpus déjà bien constitué ? Peut-être d'ailleurs pourrait-on rappeler brièvement les grandes figures du stoïcisme avant Épictète ?
Donc Zénon, Cléante, Chrysippe. Et Chrysippe, c'était quelqu'un qui écrivait tout le temps. Il y a quelque chose de très paradoxal, au sens où il y a eu énormément d'écritures de la part de Chrysippe, notamment, qui était considéré comme le refondateur même du stoïcisme, au sein même de l'ancien stoïcisme après Zénon. Et tout a été perdu, on n'a plus que des fragments. Et celui qui n'a pas écrit, eh bien, quelqu'un a écrit pour lui. Et ça s'est conservé. Célèbre. Mais on a 4 livres sur les 8.
Donc Chrysippe, c'est 3e siècle avant Jésus-Christ.
Et il écrivait beaucoup. Il est connu pour ça.
Et il est connu surtout par les spécialistes, alors qu'Épictète, il est connu plus largement. Sénèque est à Rome, quand même, au 1er siècle après Jésus-Christ. Il va mourir dans l'année 65. C'est un grand stoïcien. Quel rapport vous imaginez ou vous savez ayant existé entre Épictète, qui est à Rome aussi ?
Je ne pense pas qu'il y ait eu de lien.
Et Sénèque. Qu'est-ce que vous en pensez, Alain Petit ? Il n'y en a pas ?
Non, ça me paraît peu probable.
Il ne l'a pas lu, au moins ?
Non, parce que ce qu'a écrit Sénèque ne pouvait pas avoir autorité aux yeux d'Épictète. Épictète est un conservateur en ce qui concerne la philosophie stoïcienne. Mm-hmm. Il se réfère à l'ancien stoïcisme. Sénèque est un homme riche, c'est un banquier, c'est un conseiller du prince, c'est un politique, c'est aussi un philosophe, mais qui s'exprime essentiellement, on pourrait presque dire, sur un mode mondain.
C'est un autre monde, donc,
c'est un tout autre monde, à mon avis. Si on pouvait faire une hypothèse, je dirais, je suis pas certain que Sénèque ait beaucoup d'autorité aux yeux de quelqu'un comme Épictète.
Oui, je vous en prie.
Si je peux dire quelque chose, le texte d'Arien, on pourrait y passer beaucoup, beaucoup de temps. Il y a 2-3 choses que je voudrais dire encore, mais ce que je voudrais dire, c'est que c'est une lettre.
Oui.
Que Sénèque aussi a écrit des lettres.
Oui.
Et que je voudrais attirer votre attention sur l'objet lettre, parce que c'est une sorte d'intermédiaire entre un livre et une situation orale. Parce qu'un livre, on l'a vu dans le Phèdre, hein, c'est-à-dire que c'est un écrit qui va avec tout le monde. C'est un problème. Non seulement il dit une seule chose, mais il va avec tout le monde et il a besoin de son père. Une lettre, elle est référencée.
Mmh.
C'est-à-dire qu'il y a une situation initiale, Arien à Lucius salut, qui permet de référer tout ce qui est dit à une situation donnée. Et il y a quelque chose qui est maîtrisé dans, le risque d'aller avec tout le monde. Et c'est un objet intéressant.
Donc c'est la question de la vulgarisation, si c'était ésotérique, mais c'est assez clair, en fait. La philosophie stoïcienne a quelque chose, une clarté impressionnante. C'est l'idée de la partager par l'écrit. Il s'en excuse un peu, ce Arien. Et en même temps, il le justifie, peut-être parce qu'on en parle mal à l'époque de cette philosophie.
C'est étonnant parce qu'il dit donc, j'ai pas composé. Je l'ai écrit pour moi. Je l'ai écrit pour moi.
Oui.
Donc je l'ai pas publié. J'ai essayé d'être le plus littéral possible parce que c'est du genre de ces propos qu'on tient spontanément à autrui et pas ceux qu'on cherche à écrire dans des traités, etc. Spontanément, c'est aussi tout de suite. Il y a une sorte de vivacité. Et il dit, bon, cela étant, ils sont là. Et moi, j'ai rien fait pour, mais ils sont là. Et ensuite, il y a toute la fin du texte où, là, il rejoint des choses caractéristiques de la philosophie stoïcienne, où il dit, en gros, quand Épictète parlait, tout passer directement dans l'esprit de l'interlocuteur. Mmh. J'ai essayé de faire ça. Si je suis pas arrivée, tant pis. Et peut-être c'était pas possible. Peut-être c'était nécessaire qu'on perde ça.
France Culture, avec philosophie. Géraldine Mulman.
Frédéric Ildefonse et Alain Petit sont dans ce studio ce matin pour parler d'Épictète, qui fait partie de ces philosophes un peu énigmatiques qui n'ont rien écrit et qui ont pourtant une célébrité extraordinaire. C'est Arien de Nicomédie qui a retranscrit des propos d'Épictète enseignés dans les entretiens et dans le fameux manuel d'Épictète. Vous allez m'expliquer la forme là qui se joue philosophiquement, pourquoi cette forme a été choisie par Arien, mais je voudrais tout de suite qu'on aille dans le texte et sur un sujet qui est très important pour les stoïciens, qui nous angoisse fort, sur lequel nous avons plein de représentations à corriger, disent les stoïciens depuis déjà plusieurs siècles, à savoir la mort. Notre peur de la mort peut être corriger, apprivoiser. Écoutez donc les entretiens d'Épictète sur ce sujet.
Il faut que je meure. Dois-je aussi gémir? Il faut que je sois emprisonné. Dois-je aussi me lamenter? Il faut que je parte en exil. M'empêche-t-on de partir en riant, de bonne humeur, serein?
Révèle-moi les secrets que tu détiens.
Non, car cela dépend de moi.
Eh bien, je vais te mettre au fer.
Homme, que dis-tu? Moi? C'est ma jambe que tu enchaîneras. Ma faculté de choix, Zeus lui-même est incapable de la vaincre.
Je te jetterai en prison.
Mon pauvre corps, oui.
Je te ferai couper la tête.
Quand donc t'ai-je dit que j'étais le seul dont la tête ne peut être tranchée? Voilà ce à quoi devraient s'entraîner ceux qui s'adonnent à la philosophie. Ce qu'ils devraient écrire chaque jour, ce à quoi ils devraient s'exercer. Voilà à quoi il faut s'être entraîné. C'est là s'être préparé à avoir des désirs et des aversions exempts d'empêchements et à l'abri des événements. Il faut que je meure. Si c'est sur le champ, je meurs. Si c'est un peu plus tard, je déjeune maintenant, puisque c'est l'heure. Ensuite, je mourrai.
Ce texte d'Épictète, non, d'Arien retranscrivant Épictète, met en scène un dialogue intérieur. On s'envoie plein d'objections sur la mort, c'est des objections qui nourrissent la peur. Et puis, l'enseignement d'Épictète permet d'y répondre et finalement, il est écrit « Entraînons-nous de cette façon ». Alain Petit, expliquez-nous un peu ce texte. Il y a plein de choses dans ce texte.
Oui, il y a plein de choses. Moi, j'y vois d'abord une sorte de circonscription de ce qui doit être préservé et d'externalisation de tout ce qui va tomber sous le coup d'une causalité qui n'est pas la mienne et qui s'appelle le destin. Donc
si je suis enfermé, emprisonné par un tyran, c'est pas la peine d'essayer de corriger cela, c'est ainsi. Par contre, je peux corriger les représentations apeurées que j'ai de ce qui va m'arriver.
Je n'ai de pouvoir que sur ces représentations, et c'est sur ces représentations que je peux m'exercer à agir. Donc ça veut dire que ma liberté s'exerce seulement dans le champ de ce dont je suis maître.
Mais c'est énorme. C'est déjà beaucoup.
Bah, c'est-à-dire, en fait, on pourrait presque dire c'est tout. Parce qu'Épictète ayant toujours, dans les entretiens, c'est une sorte de... C'est une disjonction qui revient toujours. Limite ce sur quoi tu as de l'empire, du pouvoir d'agir. Et à partir de là, tu ne seras plus jamais entravé. Tu ne seras pas esclave.
Esclave au sens
psychique, oui, esclave au sens mental. Esclave au sens moral et psychique.
À vous, Frédéric Ildefonse. Et parlez-moi, si vous le voulez bien, de la forme aussi, de l'oralité dans ce texte. Où on entend Épictète s'envoyer des objections. Et nous-mêmes, en lecture, vous l'avez entendu, on a mis deux voix pour restituer, pour lire ce texte.
Alors juste sur la prison, je pense à, oui, à Mandela. Oui. À Mandela, dans sa prison, combien d'années? 30?
Oui.
Et Obama était allé dans cette cellule pour la voir. Là, il y avait quelque chose d'une liberté qui s'exerçait aussi. tout en étant absolument prisonnier. Donc c'est juste ça que je voulais.
Mais c'est ce qui veut dire que pour vous, Épictète nous parle de la prison d'aujourd'hui.
Oui. Alors, vous avez raison, il y a deux voies, et c'est drôle parce que moi j'ai travaillé sur la multiplicité intérieure.
Oui.
Et chez Homère, par exemple, il y a le dialogue du héros avec son thumos. Et là, c'est vrai qu'il y a un dialogue de, comment dire, comme d'intégration du maître, là. C'est-à-dire que par rapport au dialogue entre l'élève et le maître dans la situation de parésia, le dialogue intérieur, on dirait bien que c'est une manière de vivre avec le maître en pensée, alors qu'on est rendu seul.
Vous voulez dire que l'écriture convoque le personnage d'Épictète, qu'il est là, le maître?
Oui.
C'est ça que vous dites, l'écriture de cet arien de Nicomédie permet d'avoir Épictète parlant, se parlant à lui-même et parlant à ses élèves.
Oui, ou bien quelqu'un qui devrait mourir, qui parlerait.
Oui.
Et qui se parlerait à lui-même et qui intégrerait la leçon du maître Épictète au moment même où il pense à la mort qui approche. Et alors ce qui est frappant aussi dans ce texte, bien sûr, c'est cette espèce de sécheresse qui n'est pas seulement stylistique, même si la sécheresse stylistique était caractéristique du stoïcisme avant Épictète. C'est-à-dire, il y a une phrase qui dit que la rhétorique stoïcienne, c'est ce qu'on peut apprendre si on veut apprendre à être muet. Donc ça voulait dire que, vraiment, c'était très peu ornemental, on va dire. Mais là, il y a la sécheresse aussi du point de vue de l'événement. C'est-à-dire, ne pas en rajouter. Il faut que je meure, dois-je aussi gémir? Donc il y a l'histoire de l'éthique qui est agir, comment agir, donc mourir mais pas en gémissant, mais il y a l'idée aussi d'en rester à ce qui arrive, d'en rester strictement à ce qui arrive, et de ne pas rajouter une plainte, de ne pas rajouter une lamentation.
Alors, dans le premier épisode de cette série, nous avons parlé de Piron d'Élis, c'est très différent, c'est la question du scepticisme, même si c'était complexe dans le détail. Mais il y avait un idéal d'aphasie pyrrhonien, c'est-à-dire l'idée de ne pas écrire, mais même peut-être de ne pas parler, en tout cas de ne rien affirmer, peu de mots. Là aussi, Frédéric Hillefond, ce que vous venez de dire, c'est le stoïcisme, c'est pour le coup très différent, ce ne sont pas du tout des sceptiques les stoïciens,
pas du tout,
mais alors. Il y a vraiment pas du tout, mais on retrouve le peu de mots.
Oui.
Pourquoi?
Parce qu'il faut être précis. Il y a la manière dont parle Arien quand il dit j'ai essayé d'être le plus précis, le plus littéral possible. Ça rejoint l'idéal gnoséologique de la représentation compréhensive qui est que d'une situation donnée, il faut essayer de retranscrire toutes les caractéristiques. Donc il faut intégralité et concision. Ça va avec la précision.
Donc non seulement Alain Petit, il ne faut pas gémir si je suis mis à mort, ou si je souffre avant de mourir, mais à la limite, je suis un grand sage stoïcien si je sais carrément me taire. Il y a une éthique, un idéal du silence, de la sobriété, peu de mots, peu de paroles. Vous le pensez aussi,
du
Alain Petit, dans le stoïcisme?
Du silence, je ne sais pas. De la sobriété, oui. Mais peut-être précisément, comme le dit Frédéric, parce qu'il ne faut pas s'y pencher, mais aussi parce que l'épanchement verbal représenterait un défaut de maîtrise.
Oui, d'accord, ça on comprend bien maintenant.
La concision,
oui,
oui. Et du coup, entre Piron et Épictète, ou le type de l'idéal du sage auquel lui-même ferait référence, il y aurait bien en effet un rapprochement possible. Par-delà les questions de connaissance, de dogmatisme, de scepticisme, Piron était important dans la tradition gréco-romaine, mais surtout romaine, comme personnage ayant pratiqué la plus grande ascèse, et d'une certaine manière comme celui qui acceptait toutes les situations. Alors, je dirais, la différence est mince, mais vraiment très mince, parce que Piron, c'est celui qui dit, quelle que soit la situation, elles me sont indifférentes. L'aphasie, c'est lié à l'indifférence.
Oui. Bon. Alors que c'est différent.
L'absolue indifférence pyrrhonienne, ça ne fait rien pour moi. Tu tombes dans le précipice, tu es à côté de moi. Bon, moi, j'ai continué mon chemin parce que, voilà, j'ai conversé avec toi, tu es tombé, j'ai continué mon chemin, je m'appelle Pyrrhon. Voilà, ça m'est indifférent. Le stoïcien ne dira pas ça. Le stoïcien dira il y a des différences, mais ce qui importe, c'est que moi, je ne sois jamais écrasé par quoi que ce soit. D'où la fameuse maxime qu'on prête à Épictète, hein, abstiens-toi. Enfin, il dit supporte et abstiens-toi. Mais ce qui m'intéresse, c'est abstiens-toi. C'est-à-dire, non pas abstiens-toi d'agir, comme le fait sans doute, comme on présume que Pyrrhon le faisait, mais c'est faux, mais abstiens-toi de juger les situations. C'est-à-dire de les qualifier de bonnes ou mauvaises.
La mort n'est pas un mal. Les commenter. D'exprimer de l'émotion.
C'est ça. Alors, abstiens-toi d'ajouter de l'affect à la situation dans son caractère d'événement pur.
Frédéric Ildefonse.
C'est qu'aussi, comment dire, c'est peu indifférent au sens où Épictète définit l'éducation comme le fait d'apprendre à vivre conformément à la nature et à vouloir les événements tels qu'ils arrivent parce qu'ils arrivent conformément à la loi de l'univers. Donc, en ce sens, comment dire, il y a vraiment une inscription dans un ordre cosmique, intelligent.
Le but du stoïcisme, c'est d'être heureux ou en tout cas pas trop malheureux ? Ou bien c'est plus complexe que cela ? C'est une sagesse plus complexe.
C'est de vivre conformément à la nature et c'est de vivre dans la sérénité. La sérénité ne peut venir que dans le fait de vivre conformément à la nature et conformément aux événements qui arrivent par nature.
Et donc, il faut maîtriser nos représentations qui tendent à ne pas respecter les lois de la nature et à nous rendre malheureux, à nous créer des peurs excessives.
Si elles ne sont pas compréhensibles.
Si elles ne sont pas, ouais. Et si on les maîtrise, ça veut dire qu'on parlera peu, qu'on n'écrira rien, qu'on laissera peu de logos. Parce que si on maîtrise nos représentations sont faites de langage, souvent. Et donc, il y a un petit problème avec le langage. C'est bien cela qu'il faut contrôler pour un stoïcien.
Alors, c'est très important tout ce que vous mettez en place, là. C'est-à-dire que le langage, c'est très important pour les stoïciens. Toute représentation humaine est logique. Toute. Donc, la représentation est liée au langage. Et Claude Imbert, qui est une grande dame, professeur de philosophie antique et philosophie en général, disait que les stoïciens sont ceux qui ont eu l'idée d'une caractéristique universelle en langue naturelle. Donc au contraire, ils ont travaillé énormément sur le langage, dans le sens de la précision. On peut dire que la grammaire telle que nous, on l'a apprise, la grammaire occidentale, elle découle du lyologique stoïcien. C'est très important, le langage. Mmh. Autre chose pour Épictète, et l'objet livre. Et l'objet livre, c'est un objet de dépendance comme un autre.
Il y a une dépendance.
Un objet de dépendance comme un autre. J'ai sous les yeux un texte des Entretiens au livre 4 où il dit « Quelle différence entre dire « cela va mal pour moi, je ne peux rien faire, je suis lié à mes livres comme un cadavre » et dire « cela va mal pour moi, je n'ai pas le loisir de lire ». C'est-à-dire que, et il y a dans ce long passage, il y a le livre apparaît comme un objet d'addiction, comme un autre, comme un objet de dépendance, comme un autre.
Qui excite nos représentations alors qu'il faudrait les modérer, c'est ça ?
Et surtout, comment dire, ce que dit Épictète à ce moment-là, c'est que à quoi bon lire ?
Oui.
C'est-à-dire qu'il ne faut pas que la lecture soit auto-finalisé, en quelque sorte, qu'on lise pour lire, mais il faut lire pour vivre.
Je crois que vous avez éclairé des choses très importantes. Alain Petit, voulez-vous rajouter quelque chose sur ce rapport au langage dans le stoïcisme ?
Oui, moi je pense à l'exemple de Marc Aurèle. Parce que ça rejoint exactement la question que vous avez posée. Il se sert de l'écriture pour expliciter ses propres représentations et en même temps les maîtriser. D'où le caractère que pourrait prendre une écriture à son propre usage, strictement à son propre usage, qui serait destinée à clarifier les situations Et alors, ça rejoint quelque chose que vous disiez l'une et l'autre à l'instant. Marc Aurèle essaie de voir ce qu'il peut retirer par le langage de ce qu'il pourrait dire et qu'il ne dira pas. Parce qu'il ne faut pas qu'il le dise, parce qu'il aura surage.
Abstiens-toi de trop écrire.
Écrit en enlevant. C'est de l'écriture abstractive.
Oui.
Enlève ce que tu pourrais ajouter si tu te laissais aller à des représentations non maîtrisées. Tiens-toi effectivement à ce qui est compréhensible de la situation déterminée où tu es. Et donc, utilise le langage contre sa propre prolixité. C'est une sorte de silence assisté dans l'usage même de l'écriture.
Alors, dans le cas d'Épictète, il y a deux textes que fait Arien, qu'écrit Arien, puisqu'Épictète, lui, n'a rien écrit. Il y a des entretiens et il y a un manuel. Le manuel, c'est encore plus sobre que les entretiens, où il y a quand même quelques commentaires d'auteurs. Néanmoins, déjà, il y a cette forme qu'on appelle la diatribe, je crois.
Oui.
Pourriez-vous nous expliquer cette forme, aussi bien dans les entretiens, la diatribe, que dans le manuel
d'Épictète ? Alors, la diatribe est d'une manière plus concentrée dans le manuel, parce que c'est un choix fait par Arien de certains propos qui vont être tout à fait exemplaires et qui serviront immédiatement. En Kairidion, titre grec, ce que tu as sous la main... ou bien le poignard, mais enfin ce que tu dois avoir sous la main dans des situations périlleuses. Bon, donc tu auras le remède. On pourrait dire c'est une métaphore médicale. La diatribe dans les deux cas, c'est une façon de frapper le disciple pour lui permettre d'être ébranlé dans ses représentations. La diatribe n'est pas destinée. Alors, elle est destinée au perfectionnement, c'est ce que dit Arien.
Oui.
Mais en même temps, on ne pourra pas contribuer au perfectionnement de l'auditeur, du disciple, si on n'a pas commencé par ébranler quelque chose. C'est-à-dire non pas les prénotions, mais les préjugés.
Mm-hmm. C'est un
qui
peu,
cachent les prénotions.
C'est un peu socratique.
Ah,
bah, il faut.
Ah, oui, absolument.
C'est ce que vous. Faites le lien avec plaisir. Et puis, vous qui connaissez ça très bien, Frédéric Ilvefonds, essayez de nous préciser là les enjeux.
Ben moi, je trouve que c'est intéressant, en effet, de parler de Socrate à ce moment-là, à propos de l'ébranlement, parce qu'il y a le fameux texte de Socrate dans le Ménon, où il se compare à un poisson torpille, et il dit qu'il s'embarrasse lui-même et qu'il embarrasse les autres. Et que c'est de cet ébranlement général que peut, in fine, surgir une vérité par le jeu de la dialectique, de l'échange dialogique, etc.
Donc nous avons cité et même lu un extrait du Ménon dans notre épisode sur Socrate, oui, qui lui-même n'a rien écrit. Êtes-vous en train de me dire que Socrate, qui quand même aimait discuter, hein, c'était pas seulement peu de mots, hein, le langage, il y a de la sobriété, mais il y a aussi d'autres choses. C'était néanmoins un modèle. Ben, pour les stoïciens,
il y a le Socrate circule dans les entretiens. C'est sûr que c'est une figure, mais ce que je voulais préciser, c'est que dans la parésia,
oui,
on y revient.
Le tout parler,
Épictète, lui, ne s'ébranle pas lui-même. Ça, c'est une différence entre Socrate et Épictète. Épictète ne s'ébranle pas lui-même.
Le sage dans la parésia ne doute jamais, n'est pas pétrifié parfois par tout ce qui l'agite.
Dans la parésia du stoïcisme,
oui.
Il y a une position de maître qu'Épictète assume pleinement. Mmh. Tandis que Socrate n'est pas dans cette position-là. Et donc, je trouve ça intéressant de voir que l'ébranlement, c'est sur l'élève, tandis que Socrate, l'ébranlement est général. Qu'il y a une forme de... Il faut arriver à un stade de quasi-hébétude pour déconstruire de l'opinion et construire de la science. C'est ce que chez Épictète, c'est pas pareil.
Oui.
Et sur la parésia, je voulais dire autre chose qui paraît trivial sûrement, mais s'il ne faut pas écrire, c'est que le rapport de parésia est strictement verbal. C'est-à-dire que le rapport de parésia est verbal. Donc l'écriture, c'est, comment dire ça, il faut une exclusivité verbale pour que la parésia marche.
Donc transgressée par l'élève à rien. Oui.
Avec toutes ces précautions qu'il prend, ce que je n'ai pas fait, mais pourtant ça arrive là, et voilà.
Alors revenons
à l'enseignement, qui est quand même l'enjeu, avec une, l'enjeu d'Épictète est profond. Et pour le stoïcien, ça veut dire agir vraiment sur l'élève pour qu'il progresse, pour qu'il se perfectionne. Il y a un passage que je voudrais à nouveau vous faire lire. Je dis à nouveau parce qu'on va entendre encore une fois le dialogue intérieur d'Épictète qui est retranscrit par Arien dans les entretiens. Et ce qui est troublant, c'est la fin. Vous allez voir, il est question de livres.
À toi à présent de me montrer tes progrès. Mettons que je demande à un athlète « Montre-moi tes épaules » et qu'il me réponde
« Vois mes haltères. »
« Toi et tes haltères, arrangez-vous. Moi, ce que je veux voir, c'est l'effet des haltères. »
« Prends ce traité de la propension et vois comment je l'ai lu. »
« Esclave, ce n'est pas cela que je demande. Mais comment tu te comportes dans tes propensions et tes rejets, dans tes désirs et tes aversions, dans tes intentions, projets et préparatifs ? Es-tu en tout cela en harmonie avec la nature ou en désaccord avec elle ? Si c'est en harmonie avec elle, montre-le-moi, et je te dirai que tu progresses. Si c'est en désaccord avec elle, va-t'en, et ne te contente pas d'expliquer les livres, mais rédige-en toi-même de semblables. »
Alain Petit, ne te contente pas d'expliquer les livres, ne te contente pas de me faire voir tes haltères qui te permettent de t'entraîner. Je veux voir tes progrès, ta musculation intérieure, si j'ose dire. Mais rédige toi-même de semblables livres. C'est très étrange. C'est étrange pour un stoïcien que ça finisse comme
je
ça.
Je ne crois pas qu'on puisse le prendre, là, pour le coup, à la lettre. Si tu te contentes pas d'exprimer, mais rédige toi-même de semblables... ça veut dire que tu cesseras d'accomplir ce que je veux que tu fasses. Tu tomberas dans une activité qui ne correspond pas du tout à celle du progressant.
Donc ça voudrait juste dire, maintenant tu es sage, c'est toi qui es à la manœuvre, pas forcément pour écrire des livres, c'est une métaphore, mais ça veut juste dire, ne te laisse pas noyer par les livres des autres, perfectionne-toi et vis comme un sage stoïcien, et cette expression « rédige toi-même des livres » n'est qu'une métaphore de la sagesse maîtrisée ?
Ou bien... c'est peut-être une façon de... Moi, je le perçois avec une, comment dire, une ironie assez forte. C'est-à-dire que j'ai le sentiment s'il renvoie le disciple qui ne suit pas le chemin du perfectionnement tel qu'il le maître le conçoit, il le renvoie à une activité qui sera une activité qu'on peut considérer comme subalterne. Dans ce cas-là, ça veut dire rédiger des livres, ça n'est pas du tout ce que tu devrais faire.
Si tu te trompais une dernière fois malgré ta sagesse bien apprise, ce serait...
C'est-à-dire, en fait, tu ne serais pas du tout parvenu au résultat.
Oui.
Là, ça veut vraiment dire quitte les livres.
Quitte les livres. Vous vous rendez compte ? On a quelqu'un qui est un enseignant, un grand sage, qui manifeste autant d'horreur pour les livres. Frédéric Ildefonse.
C'est-à-dire qu'il insiste sur la possibilité de la passivité de la lecture. La passivité de la lecture. C'est-à-dire que le fait d'être dépendant du livre, d'être dépendant donc du contenu que quelqu'un d'autre a produit aussi. C'est toujours défaire la dépendance. Et en fait, dans le texte précédent qui a été lu, il était aussi question de l'écriture. Voici ce à quoi devraient s'entraîner ceux qui s'adonnent à la philosophie, ce qu'ils devraient écrire chaque jour. C'est un autre exercice de l'écriture qui promeut.
Et ça va. On peut, si on écrit chaque jour en accompagnement de sa vie, on n'est pas dépendant. Et ça, c'est bien.
C'est de l'exercice. C'est un exercice comme un autre. Et d'ailleurs, c'est pas pour publier. C'est un petit peu comme Arien, c'est-à-dire je l'ai écrit pour moi, j'ai écrit les cours pour moi, comme aide-mémoire de sa pensée. C'est-à-dire que c'est pas du tout de la publication. Je crois que c'est plutôt l'horreur de la publication.
Oui, ça c'est un point, ça précise beaucoup la donne. Mais qu'est-ce qui s'est passé en Grèce pour qu'il y ait cette inquiétude chez plein de gens qui ne pensent pas la même chose que Pyrrhon, Socrate... Épictète et les stoïciens d'avant ne pensent pas la même chose, mais tous ont une énorme méfiance envers l'écrit.
Qu'est-ce que vous en pensez, Frédéric Ildefonso?
Bah, je pense que c'est vraiment lié au Phèdre, hein. Enfin, que c'est quelque chose de...
Au Phèdre de Platon, que nous, a, dont Platon, nous avons lu c'est-à-dire un passage dans le deuxième épisode de cette série. Oui.
C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est une confiance en la parole vivante, pourvu qu'elle soit maîtrisée dialectiquement, que ce ne soit pas une parole, comment dire, qui n'est pas maîtrisée... comment dire, pas par l'intelligence. Enfin, je veux dire que c'est pas une parole qui ne soit pas une parole de blabla, une parole de bavardage. Mais il y a une parole vivante parce que dans la parole vivante, il y a la possibilité de vraiment capturer quelque chose qui, dans l'écrit, risque de ne plus être soutenu.
C'est très important d'entendre cela aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes à une époque où tout le monde écrit, tout le monde publie, tout le monde a son histoire de vie. Le publier de l'écrit est extraordinairement valorisé. Et les Grecs nous disent attention. Alain Petit, ils ont raison ?
Ben, ils pourraient très bien avoir raison parce que la défiance de certains philosophes à l'égard de l'écriture, y compris ceux qui écrivaient. Bon, ce qui est intéressant, c'est la défiance à l'égard de ce qu'on pourrait le phénomène de la transformation de l'activité philosophique en culture. C'est-à-dire ce qu'on pourrait appeler aussi des œuvres mortes, une mémoire morte, le poids de la culture, la désactivation, et là je rejoindrai les propos de Frédéric, la désactivation par l'écrit de l'effet de la parole philosophique. Parce que Arien insiste sur l'effet. Que le discours d'Épictète pouvait avoir sur les auditeurs. Ici et maintenant. L'accumulation d'écriture en philosophie peut, dans ce cas-là, faire perdre le sens de la nature même de l'activité philosophique.
Vous êtes d'accord avec cette dernière phrase? C'est la fin de notre émission, je voudrais vous entendre une dernière fois.
Pour la parésia, je voudrais revenir à la parésia sur ce sujet. C'est une parole engagée. Et l'oralité, ça permet de contrôler l'engagement, de le mesurer. Tandis que l'écrit ne permet pas de la même manière l'engagement. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Ooh, 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 ooh. And I'm feeling good. Fish in the sea. I feel river running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean? Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world and a bold world for me.
Feeling good. Nina Simone, 1965, puisque le but des stoïciens, c'est de vivre. De vivre assez bien autant qu'on le puisse et non pas d'écrire ou de lire. C'était notre sujet du jour et je remercie beaucoup Frédéric Ildefonso et Alain Petit pour leurs explications sur ce point difficile pour nous autres modernes. Tous ces Grecs qui ne voulaient pas écrire ou qui se méfiaient de l'écriture, c'était vraiment passionnant. Les références de vos travaux sont sur notre site. Et à présent, je vous propose d'écouter la chronique de Frédéric Worms. Cette semaine, il réfléchit à l'existence. Voici le pourquoi du comment.
Pourquoi l'existence passe-t-elle par les autres? On comprend bien pourquoi notre existence a besoin d'autrui, a besoin des autres, a besoin en particulier dans notre cas des autres êtres humains, mais aussi d'ailleurs des autres êtres vivants. Comment notre existence ne peut pas ne pas être une coexistence? Nous le comprenons de manière tout à fait objective, puisque par exemple le nourrisson humain, quand il naît, est le plus dépendant de tous. Il a besoin d'autrui et même il a besoin de l'amour d'autrui. Sans la nourriture, sans la chaleur, sans le soin que lui prodiguent les autres, il meurt, mais aussi sans cette intention de l'aider, sans la reconnaissance de la valeur de son existence pour elle-même, il pourrait au fond disparaître. Et donc il y a quelque chose de très simple dans le besoin qu'a notre existence d'autrui, dans cette précarité aussi, et dans cette peur aussi peut-être, qu'autrui ne vienne pas à notre secours, qu'autrui au lieu de venir à notre secours vienne menacer notre existence, qu'autrui pour nous soit un danger, une menace et non pas un secours et un renfort en quelque sorte pour notre existence même. Mais dans cette direction, dans ce problème, il y a eu aussi les philosophies de l'existence, notamment au cœur du XXe siècle, mais déjà au début du XIXe siècle avec, mettons-les ensemble paradoxalement, par exemple Hegel et Kierkegaard. Or, qu'ont dit les philosophes de l'existence? Les philosophes de l'existence ont en quelque sorte ajouté un tour d'écrou, ont ajouté une condition aux besoins d'autrui, au fond, pour survivre, notamment chez les êtres humains. Ce tour d'écrou, c'est toujours le même. C'est que nous avons besoin d'autrui, non seulement objectivement, mais subjectivement. Nous avons besoin qu'autrui nous, non seulement nous aide objectivement à survivre, à ne pas mourir, mais nous reconnaisse comme une autre liberté, reconnaisse notre existence, notre altérité face à la sienne, reconnaisse notre subjectivité. Hegel avait déployé cette exigence de la reconnaissance, de la subjectivité, pas seulement du secours qui nous empêche de mourir, mais de la reconnaissance de la liberté dans la fameuse dialectique du maître et de l'esclave qui conduit justement à une lutte à mort. La mort reste bien le critère puisque l'esclave veut se faire reconnaître comme également libre de mener sa vie comme il veut et pour cela est capable de la mettre en jeu. C'est la capacité à mettre en jeu sa vie qui montre que nous ne sommes pas seulement des vivants et que nous voulons être reconnu comme liberté. Et la lutte à mort dans le monde contemporain est encore présente dans la guerre, en particulier quand elle redevient existentielle, quand les uns dénient l'existence même des autres, non seulement dans leur objectivité, au fond, dans leur vie matérielle, dans leur survie, mais aussi dans leur liberté, dans leur autodétermination politique. Oui, la reconnaissance est toujours nécessaire à l'existence même, et nécessaire non seulement dans son objectivité, mais bien dans sa liberté, dans son autodétermination, non seulement comme individu, mais comme peuple. Et les guerres ne peuvent trouver de réponse que dans la reconnaissance mutuelle, et ainsi notre existence passe par autrui. Mais il faut alors peut-être quand même ne pas s'enfermer dans la reconnaissance subjective, dans la lutte à mort venue de Hegel jusqu'à Marx et Sartre et Kojève au cœur du XXe siècle. Il faut aussi revenir à l'origine vitale de cette lutte à mort, peut-être de déni de la reconnaissance d'autrui, qui est dans la peur, qui est dans la peur vitale. C'est parce que les êtres humains ont peur pour leur survie qu'ils dénient l'existence et la liberté d'autrui. Il faut donc aussi répondre aux peurs de tous pour assurer la reconnaissance de tous par tous. C'est de plus en plus urgent aujourd'hui dans toutes les régions du monde.
Merci Frédéric Worms. Nos émissions peuvent être, vous le savez, réécoutées en podcast. Cette émission a été réalisée par Nicolas Berger avec à la technique Édouard Rubinstein et Ludovic Auger. Elle a été préparée en particulier par Anna Fulpin et toute l'équipe d'Avec Philosophie, Philippine Dubélois, Carla Michel, Chaï Magiboire et Antoine Ravon. Vous êtes bien sur France Culture, vive la curiosité.